Bon, la santé publique annonçait cet après-midi qu'une trentaine de personnes infectées par la COVID-19 avaient fréquenté au moins 9 bars de la métropole. Est-ce qu'on doit trouver ça inquiétant, préoccupant? J'ai hâte d'entendre le point de vue du Dr Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal et ancien collègue de travail quand j'étais à RDI Santé. Bonjour Carl Weiss.
Bonjour, Marie-Claude.
Alors, Carl, il y a une augmentation de cas positifs. La santé publique a demandé aux gens qui avaient fréquenté des bars samedi d'aller se faire tester. La réponse a quand même été assez favorable en termes de participation à ce test.
Ben écoutez, d'abord, oui, il y a du monde qui est allé se faire tester, mais ce que ça reflète surtout, c'est que l'épidémie de COVID-19 au Québec est en train de prendre une nouvelle forme. C'est-à-dire, on se rappelle de ce qui est arrivé malheureusement avec les CHSLD, les centres pour personnes âgées. Là, on est en train de vivre ce que certains États américains sont en train de vivre, c'est-à-dire qu'avec un déconfinement qui est justifié, parce qu'à un moment donné, il fallait commencer à reprendre une activité normale, on s'aperçoit que c'est la couche de la population parmi les plus jeunes, parmi des gens de, on va dire, d'âge moyen ou d'âge moyen jeune, qui commencent à contracter le microbe de façon importante et qui sont le principal groupe atteint actuellement, avec une propagation après ça dans la communauté en général. Donc là, il va falloir avoir une approche qui a été différente de ce qu'on a eu dans le passé, où ces gens-là sont pour la plupart relativement peu malades, mais il y en a qui vont être quand même très malades et qui vont avoir besoin de soins intensifs, même si c'est très peu, mais ça va arriver, donc il faut pas prendre ça à la légère. Il y en a qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont pas de symptômes, mais qui vont transmettre le microbe à d'autres,
oui,
et qui donc vont se promener un petit peu partout, et donc qui risquent de le transmettre un peu partout, d'où l'importance d'avoir des mesures en place pour essayer de bloquer cette transmission. Et il faut évidemment la capacité de très rapidement tester, retracer ces gens-là quand on a des éclosions, des espèces d'agrégats qui arrivent ici et là, pour savoir que ce soit un bar, que ce soit un restaurant, que ce soit n'importe quoi d'autre, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec et comment on intervient pour essayer un peu de tuer la propagation dans l'œuf,
oui,
et d'empêcher une propagation plus intense, comme on voit ce qui est actuellement le cas en Floride, hein, où la situation est un peu hors de contrôle, ou en Californie, où d'ailleurs la Californie est revenue sur une espèce de confinement
absolument
intérieur beaucoup plus sévère que ce qu'on connaît au Québec. Donc, il ne faudrait pas aller là, et pour ne pas aller là, il va falloir prendre des mesures et les respecter.
Oui, en effet. Une question qui me trouble pas mal, c'est que je lisais ces derniers jours que chez certains cas asymptomatiques, on a vu des petites lésions sur les poumons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on parle de quelque chose d'inquiétant qui va disparaître? Ou est-ce que même sans symptômes, COVID peut nous affecter à long terme?
Oui, ben écoutez, affecté à long terme, je pense pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est toujours possible, et c'est pas la première maladie, où lorsqu'on commence à faire des tests sophistiqués aux gens, on s'aperçoit qu'ils peuvent avoir des lésions qui ne les rendent pas forcément très malades. Je vous donne un exemple. Si on fait une pneumonie simple et ordinaire, oublions la COVID, et qu'on ferait faire des examens de radiographie plus sophistiqués qu'une simple radiographie pulmonaire, on ferait un CT scan, on ferait un scanner aux gens qui ont une pneumonie et qui sont pas très malades, qui, on va dire, qui sont jeunes et en bonne santé, et ben des fois au scanner, on voit une pneumonie beaucoup plus extensive que ce qu'on voit à la simple radiographie pulmonaire. Donc, c'est un petit peu la même chose. Il se peut que des gens aient pas beaucoup de symptômes, mais si on leur fait des radiographies parce que c'est le fait dans le cadre d'une étude ou pour dépister certaines choses, qu'on trouve des lésions au niveau radiologique, mais qui n'ont pas beaucoup de signification clinique, c'est-à-dire que les gens ne sont pas très, très symptomatiques. Alors ça peut arriver aussi dans d'autres maladies. Ce qui est important de se rappeler, c'est le fait que s'ils ne sont pas symptomatiques, ils peuvent quand même transmettre la maladie, et très souvent justement parce que ces gens-là ne sont pas symptomatiques, ils sont capables d'avoir une vie normale. Donc, ils sont actifs, ils peuvent sortir, se promener, aller au restaurant, aller dans les bars, etc. Donc, ce n'est pas des gens qui, hein, vous savez, quand on a la grippe, on va rester à la maison,
oui,
les gens vont récupérer, ils se sentent fatigués, ils n'ont pas vraiment le goût d'aller se promener dehors, alors que s'ils sont totalement asymptomatiques, c'est le contraire qui risque d'arriver, surtout si on a une belle journée estivale.
En effet. Donc, pour revenir à ces tests depuis le week-end, quand on dit 3000 personnes, 3% ont testé positif, pour vous, c'est préoccupant, mais on n'est pas encore dans la grande inquiétude.
Ben, c'est c'est pas que c'est préoccupant, mais ce sont toujours des signes d'alerte qu'il faut surveiller.
Faut surveiller, oui.
Et il faut voir un peu comment l'épidémiologie évolue. Et là, on va avoir probablement une épidémiologie très différente de ce qu'on a connu. On va avoir une épidémiologie chez les plus jeunes, dans des populations plus jeunes, moins malades, mais qui risquent sur le nombre de finalement avoir des malades et qui vont transmettre ça à d'autres groupes dans la communauté.
Exactement. Et puis, pour terminer, Carl Weiss, Medicago débute ses essais cliniques de phase 1 pour son candidat vaccin contre la COVID-19. Medicago, c'est une entreprise biopharmaceutique qui est à Québec. Je ne veux pas qu'on développe trop sur le vaccin, mais moi, la grosse question que je me posais, et je pense qu'on en a déjà discuté dans le passé, il y a très longtemps, qui peut devenir candidat pour tester des vaccins? Est-ce que c'est dangereux? À qui on demande? Qui sont les cobayes?
Ben écoutez, les cobayes, d'abord, c'est des gens, vous savez, c'est comme dans toutes les études cliniques, hein, alors ça dépend ce qu'on est prêt à faire. Alors, il faut d'abord respecter des conditions d'éthique très sévères. Il faut évidemment mettre les gens en garde contre l'efficacité et les effets secondaires potentiels. Donc, ça peut être tout le monde. Habituellement, dans la majorité des études cliniques, on va chercher des gens majeurs, hein, parce que c'est une question aussi légale d'avoir un consentement pour des gens en bas de 18 ans. C'est compliqué. Donc, il faut signer un consentement éclairé. Donc, souvent, c'est des gens de 18 ans. Souvent, on va éviter les personnes plus âgées parce qu'à partir d'un certain âge, on se dit qu'il y a plus de risques qui ne répondent pas au vaccin. Donc, au début, vous voulez avoir des gens qui sont habituellement relativement jeunes, en pleine santé, et donc qui vont avoir peu d'effets, je vous dirais, secondaires potentiellement, et surtout qui ne vont pas avoir de facteurs confondants. C'est-à-dire, si vous arrive quelque chose, ce n'est pas parce que vous avez un paquet de maladies sous-jacentes que ça risque de un peu biaiser le tableau. Donc, très souvent, on cherche des jeunes en bonne santé, et il faut leur expliquer donc les risques, parce que c'est un vaccin qui est en train d'être découvert, entre guillemets, et les avantages potentiels, c'est le fait que si ça fonctionne et c'est un vaccin qui marche, eh bien, ils ont un vaccin qui marche et ils sont parmi les premiers à être immunisés. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Mais là, on était dans des études de phase 1, de phase 2. On est donc au tout début de cet exercice-là. Et à ce moment-là, entre guillemets, les risques sont toujours plus grands que quand on arrive dans une étude plus avancée de phase 3 qu'on appelle, où là, la sécurité du vaccin, si vous voulez, a déjà été étudiée puisqu'on l'a déjà donné à des volontaires en phase 1, en phase 2 et ainsi de suite.
Excellent. Donc, en terminant, en 10 secondes, d'après vous, un vaccin quand même, ça commence à être prometteur de rapidité d'arrivée du vaccin.
La réalité, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on aura un vaccin efficace au moins avant 2021, parce que n'oubliez pas, un vaccin doit être efficace et sécuritaire.
Tout à fait. Eh bien, Carl Weiss, ça a été un plaisir. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, bonne soirée.